Cette semaine, on est allé s'enfermer en zonzon à la conciergerie.
Va te mettre au coin, 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 petit canard.
Encore une victoire de canard.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mare.
Regarde mes trois petits canards, comme ils sautent, sautent dans la mare.
Un canard.
Canard, le podcast qui parle d'art et qui vous embouche un coin. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais faire un petit mea culpa, parce que dans l'épisode Vampire, j'ai parlé de Werner Herzog comme étant un sinistre inconnu, alors que c'est un cinéaste émérite et reconnu. Donc voilà, je m'excuse auprès de tous les cinéphiles qui s'en sont peut-être trouvés vexés.
Et les historiens d'art du cinéma.
Oui, voilà.
Salut Gabriel.
Salut Vicky.
Alors, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on est allé voir l'exposition Marie-Antoinette, métamorphose d'une image, à la conciergerie.
Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est que la conciergerie?
Alors, la conciergerie, en fait, c'est la prison du tribunal qui se trouvait, et qui se trouve d'ailleurs toujours, et encore pour quelques temps, je sais pas si le nouveau tribunal est ouvert, mais qui se trouve sur l'île de la Cité. Voilà.
Et qui est là où Marie-Antoinette a fini ses jours, enfin où elle a passé une dizaine de jours, c'est ça? Avant de mourir à l'échafaud. Enfin, avant son procès et avant d'être exécuté.
Un procès assez rapide, hein, 10 jours.
Oui.
Efficace. Ouais, il faut toujours les garder à portée de main, on ne sait jamais.
Et elle est morte le, je sais pas, 18 ou 28 octobre...
16 octobre
1793.
Exactement. Donc, c'était tout à fait approprié de faire une exposition sur l'image de Marie-Antoinette dans le dernier lieu où elle a vécu.
C'est ça, c'est qu'on a une exposition qui est in situ, c'est-à-dire vraiment dans un lieu qui lui est lié, et c'était vraiment très très bien.
C'était super, oui. Alors, on va dire de manière générale, c'est très bien présenté, tout est bien fait, j'ai trouvé qu'il y avait... J'ai pas été trop dérangée par la présentation des œuvres en général.
Non, au contraire, c'était vraiment bien.
C'était assez sympa. Il y a juste peut-être une petite chose, c'est la chronologie. Elle recommence avec sa chronologie. La chronologie, en fait, j'ai trouvé que pour une fois, elle était hyper originale. Parce que, en fait, on a décidé de prendre plusieurs biographies de Marie-Antoinette, de prendre des extraits de ses biographies qui, en fait, illustrent les derniers moments de sa vie. Et donc, c'est présenté sur une table, une longue table. Et le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est que la table est un peu basse et du coup, il faut qu'on se plie un peu.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Mais sinon, enfin, pour une fois, ça y est, je suis satisfaite d'une chronologie.
Bah, surtout que cette chronologie, en fait, c'est une partie de l'exposition.
Oui, c'est...
Au début, c'est vraiment une partie sur les biographies. Parce que cette exposition... Elle parle pas tant de Marie-Antoinette, mais vraiment, comme le titre l'indique, de son image. Donc en fait, c'est une exposition sur la réception critique de l'image de quelqu'un. Et ça, c'est super intéressant. C'est assez rare de voir une exposition là-dessus.
C'est hyper original, ouais. J'ai trouvé que vraiment, quand j'ai vu l'affiche de l'expo, je me suis dit, mais faut absolument faire ça. Comment est-ce qu'ils vont réussir à créer du contenu sur l'image de quelqu'un à travers les âges.
C'est ça, c'est comment est-ce que Marie-Antoinette elle-même a pu diffuser son image de son vivant, comment est-ce que cette image a continué à être diffusée jusqu'à aujourd'hui, et comment est-ce qu'elle a véhiculé plusieurs discours, parce que vous allez le voir si vous allez voir l'exposition, mais ça peut être des images très très flatteuses, des images de propagande, ça peut être des images écrites comme avec les biographies, ça peut être des caricatures... Ça peut être des reprises de son image aujourd'hui, comme élément de pub, ou maintenant c'est devenu une icône assez pop aussi, Marie-Antoinette. Enfin, c'est vraiment super intéressant. On retrouve des choses qu'on connaît déjà, comme certains films, ou il y a une Barbie Marie-Antoinette, mais contextualisées par ce biais-là, vraiment de la réception critique, et c'est passionnant.
Enfin, moi je savais pas qu'il y avait eu une Barbie Marie-Antoinette.
Non, non, moi non plus, mais on connaît Barbie, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est pas si étonnant que ça de se dire qu'il y en avait avec une robe de Marie-Antoinette.
Oui, oui.
Mais c'est pas du tout gratuit, enfin, y a plein de choses à voir, tout est pertinent, c'est vraiment super.
C'est une très belle expo, en plus je trouve que c'est vraiment bien construit, donc ça commence vraiment, on nous remet dans le contexte donc, de la conciergerie, donc ils ont réussi à exposer des documents d'archives qui montre le procès de Marie-Antoinette, et ça j'ai trouvé ça vraiment super.
Bah oui, il y a tous les textes, il y a les textes de son procès verbal, ouais. De son inventaire, des choses qu'elle avait en prison, et avec surtout aussi des retranscriptions. Il y a des petites feuilles plastifiées, si on n'a pas envie de se casser les yeux à lire l'écriture manuscrite de la fin 18e, c'est ça, on peut juste avoir ça. Enfin, rien que ça, c'est des petits détails qui font que ça donne envie de lire, ça donne envie de savoir ce qu'il y a là-dedans.
Et oui, et donc cette première partie, vraiment, donc c'est une remise en contexte, donc qu'est-ce qui s'est passé, voilà, Marie-Antoinette. Une deuxième partie avec cette superbe chronologie. À noter qu'il y a une erreur, je sais pas si t'as vu.
Non, du tout.
Moi, ça m'a... parce que j'ai lu tous les extraits, mais il y a un des extraits qui est mal choisi, qui est mal fléché par rapport à l'événement qu'il est censé représenter. Enfin, voilà, donc ce sera à vous de trouver lequel. Ensuite, il y a une troisième partie où là, on nous présente l'image de Marie-Antoinette à son époque. Donc, les portraits officiels.
Pas que à son époque. À son époque, encore aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que juste après, justement, la Barbie, elle est placée juste
oui,
là.
Oui, c'est vrai, oui. C'est l'image, mais vraiment l'image, on va dire.
Canonique.
La représentation. Ouais. La représentation de Marie-Antoinette.
En fait, part d'un tableau que vous avez probablement déjà vu dans votre vie, qui est un tableau d'une peintre qui s'appelle Elisabeth Vigée-Lebrun, qui était sa peintre de cour officielle. Et qui l'a peinte dans une grande robe d'apparat avec une rose à la main. Voilà, notamment. Enfin, c'est ce tableau qui est très très connu.
Ensuite, il y a une partie où c'est toutes les références à Marie-Antoinette. Enfin, c'est pas une représentation de Marie-Antoinette elle-même, on va dire. Mais il y a des œuvres d'art contemporain qui sont, pour une fois, je trouve très pertinentes. Parce que des fois, on aime bien, il y a un peu cette mode maintenant de mettre des fois de l'art contemporain dans les expos. Pour
comme Vampire, pour... où c'était chouette de les avoir, mais ça apportait pas grand-chose au propos.
Ouais.
Là, ça illustre toujours ce dont on est en train de parler, c'est vraiment très très bien. Oui, quelque chose sur la fétichisation de cette reine, qu'on voit déjà dès le début avec les objets qu'elle avait en prison, qui ont été conservés jusqu'à maintenant, certains n'est même pas sûr que c'est les vrais. Et ça, c'est pas mal. Enfin, tout est un peu là autour, de dire comment est-ce qu'elle est devenue une icône, soit détestée, soit adulée, et enfin, à travers quoi c'est passé.
Et après, alors par contre, moi, c'est un peu la dernière partie où j'étais un peu étonnée, parce que on a, dans la partie donc sur le fétichisme, on a déjà évoqué les films dans lesquels, qui sont inspirés de sa vie, et dans Retour de la Reine, on revient un peu sur ces films.
Oui, en fait, ils refont quelque chose sur Retour de la Reine, c'est...
Ces dernières années.
C'est ça, c'est Retour en force de l'image de Marie-Antoinette dans ces 20 dernières années, avec notamment le film de Sofia Coppola.
Oui, et puis c'est vrai que on va dire que Versailles a joué un peu dessus avec la rénovation de tout le hameau de la Reine, qui est le nouveau centre d'attraction de Versailles. C'est très drôle parce qu'il parlait de Marie-Antoinette au Japon, et c'est un peu une des seules figures de l'histoire française qui est connue au Japon, parce qu'il y a eu un manga sur Marie-Antoinette. Et il y a aussi un service de pâtisserie qui s'appelle Marie-Antoinette, et je trouve ça très drôle. Et quand les Japonais viennent à Paris et à Versailles, la seule chose qu'ils veulent voir, c'est Marie-Antoinette.
Bah, ce manga d'ailleurs, qui s'appelle La Rose de Versailles, et le dessin animé qui en a été tiré s'appelle Les Dix Oscars. Donc si vous êtes adepte du Club Dorothée ou du Midi les Zouzous, selon votre génération, vous êtes peut-être déjà tombé dessus. Et moi, ce manga, je l'ai lu quand j'étais ado. Et j'en ai parlé avec une jeune femme japonaise qui, elle, l'avait lu, et c'est ça qui lui avait donné envie d'apprendre le français et de venir en France. Et c'est vraiment, c'est un manga qui est déjà assez vieux, qui date des années 1970, et chez eux c'est vraiment un monument parmi les mangas. Donc c'est pas étonnant que Marie-Antoinette ait encore cette prestance-là au Japon.
Oui, c'est ça, mais c'est fou que ça se soit exporté jusqu'au Japon.
Et ce qui est hyper rigolo, c'est qu'il y a un film avec des vrais acteurs qui a été adapté de ce manga, et qui est fait par Jacques Demy, voilà, monsieur Demoiselle de Rochefort et...
Parapluie de Cherbourg.
Et Parapluie de Cherbourg, dont on voit d'ailleurs un extrait dans l'exposition, mais voilà, avec des perruques assez laides, mais c'est rigolo.
Ils ont fait pas mal de films sur Marie-Antoinette. Je me suis pas trop attardée, moi, sur les extraits, parce que, je sais pas, je trouvais que c'était pas forcément... c'était bien de savoir qu'ils avaient fait tous ces films, mais je suis pas restée...
J'en ai regardé plusieurs. Ils sont un peu longs, c'est dommage, parce qu'on peut pas faire le tour de tous les extraits, parce qu'ils en ont une bonne vingtaine, même un peu plus, et chaque extrait fait 5 bonnes minutes, donc tu restes pas tout le temps. Mais encore une fois, ça peut donner envie de voir des films, c'est plutôt sympa. Ce que j'ai trouvé vraiment très bien, c'est que cette exposition, elle est assez critique de... Bah forcément, enfin, c'est une exposition sur la réception, donc c'est un regard critique sur la manière dont on a vu l'image de Marie-Antoinette au fil des années. Et ce que je trouvais amusant, c'est que on a la partie sur Marie-Antoinette martyre, parce que à la Restauration, donc à partir des années... à partir de 1815, elle redevient une figure de martyr après avoir été, comment dire, conspuée par les révolutionnaires et ensuite oubliée sous Napoléon. Mmh. Bah, il y a toute cette affaire de... les royalistes veulent construire la chapelle expiatoire, voilà, une sorte de chapelle à la mémoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
Et récupérer les corps aussi. C'est pour ça. Les mettre...
Et ils récupèrent d'ailleurs les corps pour les mettre à la basilique de Saint-Denis, basilique des rois, où ils vont leur faire un petit gisant. Et à la fin, de nouveau, on a toute cette histoire de fétichisation. Ça termine sur Marie-Antoinette maintenant, qui est un nom qui fait vendre, qu'on peut utiliser dans la publicité, avec plein de produits dérivés, enfin, comme la pâtisserie dont tu parlais au Japon. Mmh. Alors que, quand on arrive à la conciergerie, on est devant le guichet de la billetterie, on n'a même pas encore pris son billet, et il y a une énorme pub avec une grande photo pour ce qu'ils appellent le pass Marie-Antoinette, qui est un pass pour suivre les grands moments de la vie de Marie-Antoinette, en fait pour 4 monuments du centre des monuments nationaux, donc des monuments historiques, la conciergerie, où nous nous trouvons, justement la basilique Saint-Denis, pour aller voir son tombeau, la chapelle expiatoire, et le château de Rambouillet. Donc en fait, après c'est normal, mais c'est que cette fétichisation, la conciergerie en vit, comme de nombreux...
L'entretien.
L'entretien, c'est ça, pour vendre des billets, pour qu'on vienne visiter ces lieux-là. Donc voilà.
Bah disons que la chapelle expiatoire, si t'es pas un peu au fait de ce qui se passe en histoire et en histoire de l'art,
ah oui, non, mais
elle,
tout
est,
à fait.
Elle est complètement... Enfin, on sait pas où elle est. Hein.
Tout moi, à fait.
Derrière la Madeleine.
Oui, c'est ça.
Reparle.
Elle est sur l'ancien cimetière de la Madeleine, mais alors oui, exactement.
Bon, et du coup, Gabrielle, est-ce que t'as eu une œuvre qui t'a vraiment marqué dans l'expo?
Il y a quelque chose qui a tout de suite attiré mon regard, alors que c'est une œuvre assez secondaire, parce que c'est pas un objet de Marie-Antoinette, c'est pas un objet ancien, c'est une œuvre contemporaine. C'était vraiment chouette. C'est une œuvre d'une artiste qui s'appelle Asia Kozina, qui date de 2016, et qui est une perruque en papier, qui recrée les perruques un peu à la Marie-Antoinette, donc ces grandes perruques poudrées très hautes, et s'appelle perruque avec bateau, parce que justement il y a tout un bateau carrément qui est posé dessus. Et c'est sur toute cette partie sur les cheveux de Marie-Antoinette qu'elle est connue par ses fameuses perruques toujours plus hautes, toujours plus extravagantes, comme on le voit aussi dans le film de Coppola avec des petits oiseaux, des installations entières posées dessus. Et c'était vraiment très beau.
Après, c'était pas secondaire, elle était quand même dans une belle
vitrine. Non, oui, c'est vrai, mais c'était pas. Elle portait pas le contenu. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'était une œuvre qui venait appuyer le contenu. Et toi, qu'as-tu particulièrement aimé ?
Alors moi, c'est la tasse Téton qui a été réalisée par la Manufacture de Sèvres pour le château de Rambouillet. Donc la Manufacture de Sèvres, c'est une manufacture de porcelaine. Et donc cette tasse Téton, c'est une commande de Louis XVI, donc le mari de Marie-Antoinette, pour la faire venir à Rambouillet, parce qu'elle aimait pas du tout Rambouillet. Et du coup, il a décidé de lui créer sa petite ferme comme à Versailles. Et bien sûr, il faut... Il fallait de la vaisselle pour la petite ferme. Donc, c'est une tasse Téton. Et comme son nom l'indique, la coupe de la tasse...
C'est un nichon.
C'est un nichon. Mais donc, pendant longtemps, on a eu ce mythe de... Oh là là, Marie-Antoinette, la luxure. Donc forcément, c'est son téton. C'est son sein sur lequel a été moulée la tasse. Faut quand même pas déconner. Hein, Marie-Antoinette, c'était quand même la reine de France. Elle n'est pas allée sortir son nichon à la Manufacture de Sèvres. Hein. En fait, c'est tasse Téton, c'est une référence à la Rome antique. Parce que dès la Rome antique, à l'époque de la Rome antique, on faisait déjà ces formes de tasses. Et d'ailleurs, on le voit parce que la coupe est posée sur trois pieds, un trépied. Et donc ça aussi, c'est une forme qui reste une forme inspirée de la Rome antique. Et donc, on est dans cette période où on a redécouvert Pompéi Herculanum en 1753. Et donc, alors là, la Rome antique revient vraiment à la mode. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette tasse Téton. Et c'est pas du tout parce que Marie-Antoinette s'est fait mouler un échon. Et d'ailleurs, à l'inverse, par contre, la sœur de Napoléon, elle...
Ah, elle, c'était pour de vrai.
Elle, c'est pour de vrai, ouais.
Pauline Borghèse, elle, c'était aussi vraiment...
Pauline Borghèse, la sœur de Napoléon, elle, on a une tasse... c'est une tasse en or. Et Et elle, alors elle, par contre, c'est son...
C'est son vrai niche.
C'est son vrai niche.
Comme ?
Comme, parce que là, alors j'ai trouvé ça vachement bien. À côté donc, de cette petite tasse téton de Rambouillet, on a la coupe de champagne avec la forme du sein de Kate Moss.
Voilà, faut le savoir.
Faut le savoir.
Allez pas vous... Enfin, si, vous pouvez vous précipiter à l'expo, mais vous verrez pas les nichons de Kate Moss.
Mais voilà. Vous verrez leur forme, en tout cas.
C'est ça. Et maintenant, la partie que vous attendez tous, les infos pratiques.
Attention, mais je rêve, ou c'est Gabrielle qui fait les
oui,
infos pratiques.
Oui, j'ai cherché. Alors, pour les trois buffons qui n'ont pas Internet, l'exposition se déroule du 16 octobre au 26 janvier. C'est fermé le 25 décembre pour Noël. C'est ouvert de 9h30 à 18h, et mercredi, vous avez nocturne jusqu'à 20h30, mais fermeture des caisses une heure avant. Voilà, donc vous pointez pas à 18h20, non, à 17h20 pour rentrer, ça sert à rien. Ça coûte 9 euros, et comme c'est centre des monuments nationaux, donc c'est national, c'est gratos pour les moins de 18 ans, pour les 18-25 ans ressortissants de l'Union Européenne, et pour les demandeurs d'emploi, les gens qui sont au RSA, les gens qui sont handicapés avec un accompagnateur, tout ça, tout ça. C'est gratuit aussi le premier dimanche du mois, et alors c'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, probablement parce que c'est un monument historique dans les sous-sols, enfin vieille prison oblige, j'ai envie de dire. En revanche, il y a des visites en langue des signes française et des visites spécialisées aussi pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Voilà, voilà.
On y va. Si, et ben, comme Gabrielle, on a lu le manga où on a vu Lady Scarlett, c'est ça ?
Non, Lady Oscar, mais pas mal.
Lady Scarlett.
Bien joué.
Bien essayé.
Oui, mais voilà, si vous... Oui, voilà, si vous aimez bien la figure de Marie-Antoinette, si vous vous intéressez à la réception critique des images, surtout... en ces temps et périodes où avoir un regard critique, on voit que c'est quelque chose de plus en plus important. Et c'est toujours très bien de voir comment se construit un discours par le texte et les images au fil des siècles.
Mais c'est pas une expo, comment dire, rébarbative et pleine
pas
de
du tout.
Faits.
Pas
c'est
du
très,
tout.
C'est très simplement dit.
Très simplement dit, avec plein de choses cool à voir, chouettes à voir, ouais. Où on comprend très facilement avec l'objet et un petit texte à côté de quoi il en retourne.
Et on y va... un samedi après-midi avec les copines.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Avant d'aller boire un thé, surtout s'il pleut. Eh bien, cet épisode de Canard touche à sa fin. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Instagram @canardlepodcast tout attaché, canard avec un T.
Vous nous retrouvez aussi sur iTunes, Spotify, Podbean et toutes les applis
De
podcast. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine.
À bientôt, Vicky.
À bientôt, Gabrielle.